Clotilde. Et dès qu'il eut vu la quantité de sang dont le carreau était inondé, « Ah, mon Dieu !» s'écria-t-il. « C'est ce que je craignais, le pauvre mignon. Personne n'était là. C'est fini. » Mais tous les trois restèrent terrifiés devant l'extraordinaire spectacle qu'ils eurent alors. Tante Did, grandie, avait presque réussi à se soulever, et ses yeux, fixés sur le petit mort, très blanc et très doux, sur le sang rouge répandu, la mare de sang qui se caillait, s'allumait d'une pensée, après un long sommeil de 22 ans. Cette lésion terminale de la démence, cette nuit dans le cerveau, sans réparation possible, n'était pas assez complète, sans doute, pour qu'un lointain souvenir emmagasiné ne pût s'éveiller brusquement sous le coup terrible qui la frappait. Et de nouveau, l'oublié vivait, sortait de son néant, droite et dévastée, comme un spectre de l'épouvante et de la douleur. Un instant, elle demeura haletante. Puis, dans un frisson, elle ne put bégayer qu'un mot. « Le gendarme ! Le gendarme !» Pascal et Félicité et Clotilde avaient compris. Ils se regardèrent involontairement. Ils frémirent. C'était toute l'histoire violente de la vieille mère, de leur mère à tous, qui s'évoquait. La passion exaspérée de sa jeunesse, la longue souffrance de son âge mûr. Déjà deux chocs moraux l'avaient terriblement ébranlé. Le premier, en pleine vie ardente, lorsqu'un gendarme avait abattu d'un coup de feu, comme un chien, son amant, le contrebandier Macquart. Le second, à bien des années de distance, lorsqu'un gendarme encore, d'un coup de pistolet, avait cassé la tête de son petit-fils Silvère, l'insurgé, la victime des haines et des luttes sanglantes de la famille. Du sang, toujours, l'avait éclaboussé. Et un troisième choc moral l'achevait. Du sang l'éclaboussait. Ce sang appauvri de sa race qu'elle venait de voir couler si longuement et qui était par terre, tandis que le royal enfant blanc, les veines et le cœur vides, dormait. À trois reprises, revoyant toute sa vie rouge de passion et de torture, que dominait l'image de la loi expiatrice, elle bégaya. « Le gendarme ! Le gendarme ! Le gendarme !» Et elle s'abattit dans son fauteuil. Ils la crurent morte, foudroyée. Mais la gardienne, enfin, rentrait, cherchant des excuses, certaines de son renvoi. Quand le docteur Pascal l'eut aidée à remettre tante Did sur son lit, il constata qu'elle vivait encore. Elle ne devait mourir que le lendemain, à l'âge de 105 ans, 3 mois et 7 jours, d'une congestion cérébrale déterminée par le dernier choc qu'elle avait reçu. Pascal, tout de suite, le dit à sa mère. « Elle n'ira pas 24 heures. Demain, elle sera morte. »« Ah, l'oncle ! Puis elle et ce pauvre enfant, coup sur coup, que de misère et de deuil !» Il s'interrompit pour ajouter à voix plus basse. « La famille s'éclaircit. Les vieux arbres tombent et les jeunes meurent sur pied. » Félicité dut croire à une nouvelle allusion. Elle était sincèrement bouleversée par la mort tragique du petit Charles. Mais quand même, au-dessus de son frisson, un soulagement immense se faisait en elle. La semaine prochaine, lorsqu'on aurait cessé de pleurer, quelle quiétude à se dire que toute cette abomination des Tulettes n'était plus, que la gloire de la famille pouvait enfin monter et rayonner dans la légende. Alors, elle se souvint qu'elle n'avait point répondu chez le notaire à l'involontaire accusation de son fils. Et elle reparla de Macquart, par bravoure. « Tu vois bien que les servantes, ça ne sert à rien. Il y en avait une ici qui n'a rien empêché. Et l'oncle aurait eu beau se faire garder, il serait tout de même en cendres à cette heure. » Pascal s'inclina de son air de déférence habituel. « Vous avez raison, ma mère. » Clotilde était tombée à genoux. Ses croyances de catholique fervente venaient de se réveiller dans cette chambre de sang, de folie et de mort. Ses yeux ruisselaient de larmes, ses mains s'étaient jointes et elle priait ardemment en faveur des êtres chers qui n'étaient plus. Mon Dieu, que leurs souffrances fussent bien finies, qu'on leur pardonnât leurs fautes, qu'on ne les ressuscitât que pour une autre vie d'éternelle félicité. Et elle intercédait de toute sa ferveur dans l'épouvante d'un enfer qui, après la vie misérable, aurait éternisé la souffrance. À partir de ce triste jour, Pascal et Clotilde s'en allèrent plus attendris, serrés l'un contre l'autre, visiter leur malade. Peut-être, chez lui, la pensée de son impuissance devant la maladie nécessaire avait-elle grandi encore. L'unique sagesse était de laisser la nature évoluer, éliminer les éléments dangereux, ne travailler qu'à son labeur final de santé et de force. Mais les parents qu'on perd, les parents qui souffrent et qui meurent, laissent au cœur une rancune contre le mal, un irrésistible besoin de le combattre et de le vaincre. Et jamais le docteur n'avait goûté une joie si grande lorsqu'il réussissait, d'une piqûre, à calmer une crise, à voir le malade hurlant s'apaiser et s'endormir. Elle, au retour, l'adorait, très fière, comme si leur amour était le soulagement qu'il portait en viatique au pauvre monde. Chapitre 10. Martine, un matin, comme tous les trimestres, se fit donner par le docteur Pascal un reçu de 1500 francs pour aller toucher ce qu'elle appelait leur rente chez le notaire Grand-Guillot. Il parut surpris que l'échéance fût si tôt revenue. Jamais il ne s'était désintéressé à ce point des questions d'argent, se déchargeant sur elle du souci de tout régler. Et il était avec Clotilde, sous les platanes, dans leur unique joie de vivre.